dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quelle joie de vous retrouver pour cette dernière émission Tribune Sport de la saison. Mais rassurez-vous, on ne partira pas complètement en vacances. On restera avec vous une grosse partie d'été avec le Tour de France et puis les Jeux Olympiques. En attendant, eh bien, nos associations vont, elles, partir en vacances. Donc on reviendra avec elles le 14 septembre prochain. En attendant, on va tirer un véritable feu d'artifice pour cette dernière émission de la saison. Vous avez déjà beaucoup gâté la semaine dernière en étant donc depuis le tennis club du Perret en Yvelines, dans les clubs à Ous, à l'occasion donc bien de l'inauguration des courts couverts. On vous avait présenté donc cette émission Tribune Sport depuis là-bas. Et ben ce matin, véritable feu d'artifice, on va parler des Jeux Olympiques, on va parler de l'Open de France de golf, on fera un petit point sur la finale du rugby, la belle finale qu'on a vécue hier soir donc au Stade de France entre Clermont et Toulouse, et puis naturellement on tirera les bilans de l'Euro de foot, un Euro aussi sympa que l'on a vécu, on espère qu'on aura une belle finale. Alors messieurs, bonjour, ravi de vous accueillir, d'abord Daniel Deschâtres. Daniel, bonjour.
Bonjour,
le chantre de l'olympisme, celui que j'appelle le chantre de l'olympisme.
Le chantre de l'olympisme.
Donc Daniel, on l'a dit, l'événement qu'on va suivre aussi sur RVE, après le Tour de France, ça sera les Jeux Olympiques de Pékin. Donc on va parler un peu de ce qui se trame, de ce qui arrive pour les Jeux, et puis un peu votre regard éclairé sur cette Olympiade qui arrive. Et puis avec nous, qui est déjà là dans ce studio, c'est Jean-Paul. Salut Jean-Paul.
Bonjour.
Il n'était pas avec nous au Perret la semaine dernière, il a pris un petit week-end de repos, il a plein de choses à nous raconter.
Il a été visiter quelques villes en Allemagne, mais il est revenu.
Il a plein de choses à nous raconter donc sur cet Euro de foot, Jean-Paul, très brièvement, l'euro sympa,
oui, peut-être avec des joueurs extrêmement fatigués, parce qu'on s'aperçoit maintenant dans certains matchs que les joueurs sont à l'épuisement, sont aux crampes. En fin de compte, la finale présente deux équipes qui
de grosses nations
qui qu'on pense depuis le début être là, quoi.
Très bien. Et puis Daniel, est-ce que les Jeux se présentent bien? On a beaucoup plus parlé malheureusement de
aussi
politique
bien
que de sport.
Les Jeux antiques, prochains, futurs, qui malheureusement, on a du mal un peu à se servir de tout le passé athlétique qu'on a vécu, les anciens, et qu'on a du mal aujourd'hui à se mettre au goût du jour.
D'accord, on va parler de tout cela après la pub et puis aussi la météo, parce que on va savoir s'il va faire une belle journée pour cette riche et abondante actualité sportive de ce dimanche 29 juin. On y va. Voilà, riche en tout cas actualité sportive en ce dimanche 29 juin. Donc on va revenir sur tous ces grands événements sportifs au cours de cette dernière émission de la saison. Si vous voulez réécouter toutes les émissions qu'on vous a diffusées cette année dans Tribune Sport, Tribune Foot et Tribune Rugby, vous allez donc sur le site internet radio-rve.com dans la rubrique téléchargement podcast. Vous arrivez à Tribune Sport, Tribune Foot, là vous cliquez et puis vous allez donc choisir l'émission de votre choix à la date de votre choix. On va simplement aussi vous rappeler la semaine dernière que près de 2000 personnes étaient présentes pour le Trophée Vert organisé à l'hippodrome de Rambouillet. C'était la 6e et dernière réunion avant les vacances d'été. On a vu une très belle course dans l'épreuve du Trophée Vert puisqu'il a fallu la photo finish, et c'est donc Alain Laurent sur Lonely Smiling qui l'a emporté devant donc Yves Dreux sur Nalza Vallière, et 3e donc Vincent Vielle sur Lati Bonheur. On retrouvera les courses à l'hippodrome de Rambouillet le dimanche 7 septembre, et ensuite le dimanche d'après, donc le 14 septembre, il y aura une nouvelle course PMU. Donc ça marche très bien les courses sur Rambouillet, et on en est particulièrement ravis. Alors Daniel, auparavant, avant de revenir sur l'hippodrome de Rambouillet, on vivra les Jeux Olympiques sur Pékin.
Certainement, oui.
Est-ce que Pékin devait avoir ses Jeux?
Écoutez, faut reconnaître que le passé ancestral, depuis que nous connaissons à peu près l'histoire des Jeux Olympiques, dont malheureusement ce qu'aujourd'hui c'est les Français n'ignorent qui était Monsieur de Coubertin d'une part, et surtout l'histoire du drapeau. L'histoire du drapeau peut vous le résumer une petite page manuscrite, mais qui est loin de valoir les pages que beaucoup les médias actuels ne veulent pas sensibiliser. Par exemple, je vois un petit article que j'ai été écrit il y a plus de 60 ans déjà, facile. Bon, eh bien, par exemple, Bon, le drapeau olympique, c'est en 1913, par exemple, que M. de Coubertin commença à créer son drapeau aux cinq anneaux entrelacés, afin de célébrer en juin 1914, bien avant la Grande Guerre, en Sorbonne, le 20e anniversaire de la cérémonie des Jeux Olympiques. Bon, mais écoutons M. de Coubertin. Alors, ceux-ci, ce sont les extraits des textes choisis, l'emblème choisi pour illustrer et représenter ce congrès mondial de 1914 qui mettra le sceau définitif à la rénovation olympique, a commencé d'apparaître par dizaines de documents préliminaires à cinq anneaux, noir, vert, rouge, se détachant sur le fond blanc du papier. Bon. Mais cinq années représentent les cinq parties du monde désormais acquises à l'olympisme et prêtes à en accepter les fécondes rivalités et avec le blanc, les cinq coureurs ainsi combinés reproduisent celles de toutes les nations sans exception. Il avait en effet remarqué que chaque drapeau possédait une de ses couleurs. Voilà pourquoi un emblème international, il était tout indiqué d'en faire un drapeau et l'esthétique en sera parfaite. Un pareil drapeau est léger, chatoyant, spirituel à voir flotter et il a un sens largement symbolique après ce que congrès que l'on pourrait bien le maintenir en usage élaboré aux sonalités olympiques. Résidente encore, rue Oudinot, près des magasins de bon marché, qui sont et qui confectionnèrent le premier emblème qui flotta pour la première fois le 5 avril 1914 sur les jupes panégyptiens sur le stade de Tchabli à Alexandrie. Alors, l'ensemble de participer, cette légende qui tient toujours, qui n'est en vérité pas de Pierre de Coubertin. C'est l'évêque du centre de la Pennsylvanie, M. Ethelbert Talbot, qui prononça cette phrase lors de la cérémonie religieuse des JO de Londres, le dimanche 19 juillet 1908. C'est-à-dire en la cathédrale Saint-Paul, l'important dans ces Olympiades, c'est d'y gagner que d'y prendre part. Coubertin, qui se trouvait dans l'assistance, se souvint des fortes paroles et quelques jours plus tard, lors du toast de remerciement à l'issue du dîner offert par le gouvernement britannique, le 14 juillet, il dit, messieurs, retenons cette forte parole, l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu et de s'être bien battu. Alors ainsi, ça a été enregistré et publié justement lors de l'occasion du 20e anniversaire du rétablissement des Jeux et au congrès de Paris, hein, à la Sorbonne.
Oui, donc ça veut dire, Daniel, que la Chine devait avoir les Jeux. Avec ce discours-là, avec ce contexte-là, même si on bafouille les droits de l'homme, ça veut dire que
la Chine... Les drapeaux à l'époque n'existaient pas. Il y en avait que 6 ou 7.
Oui.
Bon, peut-être maintenant, il y en a plus de 220. Mm-hmm. Bon, alors, évidemment, il y a tout un tas de drapeaux qui sont ajoutés, mais l'origine elle-même des Jeux Olympiques...
Fait qu'on doit la faire partout, dans tous les continents.
Il date de 1913-1914.
Oui, bon. Mais par exemple, donner les Jeux à la Chine, c'était légitime, c'était logique, on doit les faire dans tous les continents.
C'est-à-dire que c'était dans tous les pays. Bah, oui. Ah, oui. On ne s'attendait pas, justement... que enfin, toutes les nations présentes, qui sont quand même plusieurs milliards à l'heure actuelle, bon, et c'était pas possible de faire quelque chose un amalgame, et c'est pour ça que maintenant, que toutes les nations, un coup de téléphone, le monde entier est au courant, il y a des guerres dans tous les coins, et c'est ça qui est triste, l'état primaire des Jeux Olympiques ont été dévalués par la force, par la suite des événements.
et le pouvoir de l'argent.
Oui, pouvoir de l'argent.
Surtout le pouvoir de l'argent. C'est l'Olympisme maintenant, ça ne représente qu'une masse d'argent, que ce soit par les télévisions
ou les nations. Daniel, voilà, faut s'approcher du micro. Voilà. Oui, donc simplement pour dire que la France était candidate en 2008, faut s'en rappeler. Hein.
Ben bien sûr, on était sur la liste. Oui. Et d'ailleurs, après les Jeux de
et sur la liste 1924. Des Jeux Olympiques suivants.
Oui, on s'en rappelle, mais on s'en rappelle moins en 2008 quand même. Hein. On était pourtant candidat pour.
Mais on sera en candidature ensuite pour 2016, puisque
au moment
que la France
de la rénovation
sa candidature.
Des Jeux de 1924. Bon. La France a été supprimée des Jeux de 28, parce qu'il y avait des mouvements. Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en 28 en ce qui concerne en athlétisme. Mm-hmm. On les a retransformés 4 années plus tard, en 32. Bon, mm-hmm. Ben, il faut voir l'histoire. Bon, on voit bien un petit peu le drapeau olympique qui a été créé. Donc, Pierre de Coubertin, là-bas, là, au fief de la rue Oudinot, hein, bon, qui a été supprimé, bon, petit à petit. Alors, vous dites, l'histoire, c'est
Je juste
pas comme
une chose,
rituel de faire un triste bilan officiel.
Sur les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Pékin, moi j'y ai séjourné à Pékin il y a à peu près deux ans pendant une quinzaine de jours. Ouais. Le taux de pollution est absolument, dément. Donc, je me rappelle qu'au bout de 8 jours, nous sommes partis 2 mois avec ma fille en Chine à la fin de ses études, et au bout de 8 jours, nous avions les yeux qui pleuraient, même les oreilles coulaient. C'était absolument intenable. Promener sur la Grande Muraille on va dire à 14h de l'après-midi par un grand soleil, vous avez l'impression d'être dans le brouillard, smog anglais. Où on y voit à 100 mètres. Et c'était extrêmement important.
On voit bien les reportages télévisuels qui nous communiquent actuellement. C'est fabuleux de monter, redescendre.
Ah oui, vous allez sur une colline qui s'appelle la colline de Charbon, où on domine la cité interdite. Vous ne voyez pas le bout de la cité interdite qui se trouve 400 ou 450 mètres un petit peu plus loin. Mmh. Tout ça par ce brouillard de pollution. C'est un brouillard de pollution.
C'est le
plus important. Alors on pense que les Chinois ont eu les Jeux Olympiques parce qu'ils ont dû arrêter les usines 24 heures ou 48 heures avant, de façon à ce que le taux de pollution ne soit pas aussi important.
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quand même que pour avoir des jeux, il y a une charte.
La charte, en principe, la charte, ils ont réussi à respecter la charte. On a vu il y a quelques temps avec notre ami Ségueil Bucua, toujours meilleur perchiste, actuellement, il a du mal à canaliser ceux des pays de l'Est pour les faire participer au jeu, tout en les laissant dans le profond respect des règlements. Mmh. C'est très très difficile maintenant pour toutes les nations maintenant pour participer. D'ailleurs, ceux qui ont la chance d'avoir un papillon ou un sauf-conduit, comme nos amis cyclistes, malheureusement, qu'on va actuellement acquérir, à les faire participer, même que ce soit à 50 ans. Bon, ils le méritent largement d'avoir fait ce qu'ils avaient fait par le passé.
Mmh. Alors, la flamme olympique, la traversée a été très mouvementée, en France, c'est moins qu'on puisse dire.
Je suis un gros défenseur des droits de l'homme, mais je pense que je l'aurais aussi chahuté. Ce n'est pas la flamme olympique qu'ils ont chahuté, pouvoir qu'avait le gouvernement chinois, en grosso modo, en gérant la police française, parce que c'est eux qui ont...
Oui, c'est eux qui ont la police française.
Avec toute l'arrogance qui existe dans les policiers chinois, moi je les connais bien, je les ai subis pendant 2 mois, et je pense que c'est ça. Et bon, c'est vrai que tout le monde oublie, mais le Tibet a été envahi par la Chine. Était un pays libre,
certainement,
et indépendant.
Oui, mais est-ce qu'on ne s'exposait pas de tels risques en donnant les Jeux à la Chine? On savait que ça sortirait.
C'est complètement évident. On a chanté l'Afrique du Sud pendant des années pour son apartheid. Ah, oui. Il est évident que le Tibet, on l'aurait rappelé à la Chine qu'il l'avait envahi. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute.
Et moi, je suis sûr que tout va bien se passer pendant les Jeux. Pendant 15 jours, on va rien montrer du pays.
Mais on fait ce qu'on veut dans le pays, parce que moi, j'ai circulé, j'ai même été jusqu'à la frontière birmane. J'ai fait, je sais pas, 3000 ou 4000 kilomètres dans ce pays. C'est extrêmement policé, donc vous pouvez poser votre sac dans un coin, discuter avec des personnes, vous le récupérez 10 minutes après, personne n'y a touché. Non, c'est un pays extrêmement policé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Oh, c'est ça, tout.
Et puis le problème, tout de suite, dès l'instant où quelqu'un va bouger, et ça sera étouffé dans l'œuf, on le ramassera très discrètement, parce que ça se fait très très discrètement. Et on ne le saura pas.
Et en tout cas, c'est tout un pays qui se prépare pour ces Jeux, puisqu'on sait qu'on forme des jeunes athlètes depuis des années, années. On voit des petits bouts de choux qui se préparent. Il y a quand même un risque aussi.
Ah bah le risque, c'est d'avoir
La chasse aux médailles, mais après le risque...
Grosso modo, oui. Vous savez, on le fait dans d'autres contrées. Les Américains ont fait beaucoup de la chasse aux médailles. Les Russes, pareil, les Pays-Bas.
Ça se passe à les collèges.
Oui, chez eux, ils avaient des gens qui étaient étudiants jusqu'à 40 ans, et en Russie, ils étaient militaires jusqu'à 40 ans. Donc c'était une façon de contourner l'amateurisme à cette époque-là. Maintenant, on parle de professionnel, donc ça a complètement changé. Oui. Et je me rappelle, quand j'étais en Chine, le problème qu'ils ont aussi, c'est on devrait faire le championnat de crachat, parce que les Chinois sont extrêmement bons. Ah oui, ils crachent partout. Et en fonction des Jeux Olympiques, vous aviez des spots publicitaires à peu près tous les heures, ou tous les heures et demie, qui stipulaient qu'en recevant des étrangers, il fallait faire attention et ne pas cracher partout.
Ah, d'accord.
Ah, parce que le Chinois crache partout.
Ah bon ?
Ah, grosso modo, partout.
Et il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amende, il ne prend pas d'amende.
Ah non, 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 parce que tout le monde crache, y compris les flics.
Un peu comme à Lausanne, au comité olympique, les chiens, ils ont des petits paniers pour faire leur crotte et tout, mais enfin, c'est rentré dans les mœurs. Et les voitures s'arrêtent quand l'approche pour laisser passer les piétons. Ce qu'ils font sûrement pas encore dans la capitale française.
Alors, moi je voulais connaître votre opinion. Est-ce qu'il fallait prendre les sportifs en otage ? Est-ce que finalement partir avec un badge, c'est l'idéal ?
C'est pas mal. Moi, j'estime qu'on...
Parce qu'on peut être sportif et avoir quand même des opinions dans le monde qui nous entoure, quoi.
Boycotter les Jeux, c'est ridicule. C'est ridicule.
Parce qu'un sportif, déjà, parce que qui aille à Athènes, à Sydney, à Pékin,
leur préparation physique est extrêmement longue. Elle est conditionnée avec en fonction du sport qu'ils vont pratiquer. Non, oui, porter le badge, oui, je trouve ça. Montrer aux Chinois qu'on n'est pas aussi idiots qu'ils le pensent, qu'on ne fonctionne pas comme eux, parce que chez eux, bon, c'est vrai que c'est un pays, grosso modo, avec une dictature. On n'accepte que ce que l'on vous montre à la télévision, et votre droit de penser, il est extrêmement faible. Mais bon, je crois qu'un badge, c'est bien.
Je crois que Marazzo l'avait fait en 80 du côté de Moscou. José Marazzo, il avait participé au jeu et il avait effectivement...
Je me souviens du point levé des Américains, pour lequel j'étais extrêmement pour. Parce que ce qu'on oubliait, c'est que c'était beaucoup des Américains noirs qui gagnaient les médailles. Et dans leur pays, dès qu'ils arrivaient, leur couleur ne plaisait pas aux autres.
Daniel, il fallait partir avec le badge, ou alors il y a le sport aux sportifs.
J'ai assisté un peu à les aléas de tous ceux qui voulaient participer et peut-être défendre une image autre que celle qui était quand même demandée par le Comité international olympique. Monsieur Cérandou et autres. Bon, nous, on sait au Comité français international Coubertin, dont on fait partie depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, on a du mal maintenant à gérer le problème de la différence de toutes les nations qui ont le droit, comme tous, de participer à condition de respecter l'engagement dont ils s'étaient servis. Bon, à une certaine époque, comme vous savez, on avait, au Comité français international Coubertin, sauvé quand même, au moment des Jeux de la francophonie, on avait défendu l'idée, puisqu'on avait été reçu au Sénat, il y a 15 jours, 3 semaines, et on avait réussi tout de même à sauver l'image. Mais maintenant, c'est que c'est plus du tout l'état d'esprit qu'avait créé l'état de Coubertin, puisque maintenant, la maison natale ne fait plus partie du siège du CIO. Bon, on est toujours dans le circuit, mais néanmoins, on est un petit peu à l'écart. Alors, on assiste par des intécointés. Autrement, c'est plus du tout l'état d'esprit qui avait été prôné par Pierre Frédy, baron de Coubertin, etc.
Oui, bah, il y a deux enjeux énormes aujourd'hui, hein, au niveau naturellement victoire. La victoire, c'est, ouais, il y a des retombées fatalement commerciales. Il y a même des retombées.
Maintenant, vous êtes obligé de le faire dans un pays, on va dire, riche, parce que la masse d'argent qu'il faut pour construire les stades, les piscines, plus tout le système télévisuel, parce que maintenant on diffuse à l'instant T. Hein. On n'est pas avec peut-être avec les Chinois, on aura peut-être les 3 ou 4 minutes de retard. Ils se sont engagés, oui, tout à fait. Ils se sont engagés.
Il faut dire que la société de production, c'est une société de production du CIO. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc,
mais Jagrog n'avait pas été très causant jusqu'à là, quand même.
Ah, mais enfin, bon, apparemment, ils se sont donc engagés auprès des télés, y compris les télés françaises, de diffuser à l'instant T donc les images des jeux. Alors, au niveau de la délégation française, Daniel, comment on peut entrevoir ces jeux?
Bah,
j'ai toujours tendance à vous poser la question, est-ce qu'on juge l'État?
Ça intéresse surtout nos amis du cyclisme. Bon, comme Jeannie Longo et toute la bande, bon, en principe, on va avoir droit, suivant tout ce qu'elle a pu faire par la passée, ils vont sûrement la mettre dans le giron des équipes qui vont peut-être la chance de pouvoir terminer au moins dans les 5 premières. Bon, ça serait déjà pas mal.
Elle est déjà championne de France, ça serait quand même difficile de ne pas la mettre.
Et malgré ses 53 titres de championne de France, etc. Non, c'est déjà de ce côté-là. Ça serait peut-être un bon point à rendre au comité français et international Coubertin, qui rechigne toujours à accepter des femmes. Je sais bien au comité international Coubertin, comme le colonel Robert Torrent, qui est un de mes amis, il tique toujours d'accepter les femmes dans le processus. Et alors, pourquoi qu'une femme ne viendrait pas se mêler au giron des hommes? Et voilà, il y a toujours un petit problème de... non pas d'identité, mais... Ou un streamer qui avait fait quand même toutes les anciennes, Michel Neustermeyer, Colette Besson, bon, qui ont eu du mal à survivre à cette époque-là, mais on les a tout de même acceptées. Mais je vous dis, Jeannie Longo, elle est sur la liste, mais elle n'est pas encore officielle.
Oui, il y a même des sports qui féminins qui ont été olympiques tard, hein, comme le judo
bien sûr.
Et la lutte.
Oui,
hein.
Le judo, la lutte.
Oui, la lutte, hein.
La lutte, c'est quoi les derniers Jeux olympiques, je crois.
Oui, oui, oui. Le judo, ça doit dater de 80 ou
quelque chose comme ça, tu es de Moscou.
Et ça nous a donc rapporté une médaille. Jean-Paul, vous, l'amoureux du sport que vous êtes, on peut prévoir combien de médailles? Allez, je sais que c'est toujours difficile, mais une fourchette, 30, quarantaine de médailles, c'est à peu près la fourchette. J'ai toujours coutume de dire qu'on juge l'état d'un pays à ses médailles. Est-ce que c'est vrai, la santé sportive?
C'était valable.
Voilà, on s'aperçoit maintenant, depuis qu'on a quand même légiféré pour certaines utilisations de produits, que les pays comme la France, qui étaient plus ou moins propres, arrivent à avoir un petit peu plus de médailles qu'auparavant. J'espère une trentaine, parce que maintenant, c'est vrai qu'en natation, on commence à percer, alors qu'avant, on ne le faisait jamais.
C'est le sport qui va nous rapporter le plus de médailles.
C'est un sport qui nous rapporte beaucoup. Bon, en athlétisme, nous, on n'est pas...
Ça va être difficile, hein, faut éviter le zéro pointé. Hein.
On a quand même l'escrime où on est brillant, l'équitation,
le judo. On devra se refaire une santé.
D'ailleurs, le sport féminin...
L'aviron, où on retrouve maintenant...
On a toujours du mal à accepter le sport féminin dans le giron olympique.
Hein, pourtant, ça nous rapporte des médailles.
Quand on voit le nombre de personnes qui sont qualifiées sur les 102 ou 100, bon, il n'y en a que 15 qui sont qualifiées. Hein, alors qu'en France, on voudrait... au moins qu'une bonne moitié qui assiste au moins dans les jurys internationaux.
Oui, puis justement, il y a des critères de sélection plus exigeants dans certains sports que d'autres. Ça aussi, ça joue bien.
Il y a les minima olympiques déjà à faire avant de se présenter.
Il y a des sports où c'est plus facile de les obtenir parce qu'on est un peu plus large. Quand on voit qu'au taekwondo, on va qualifier qu'un représentant. Il y a des sports de combat ou d'autres sports où on n'en voit que deux ou trois représentants par catégorie. Donc, voilà quoi.
Mais il est vrai aussi, je ne sais pas combien ça représente de pays, c'est 180. 84, non? Donc si vous avez un ou deux participants par pays, ça vous fait des qualifications extrêmement longues. Donc je pense que c'est pour pallier à tous ces problèmes où on impose des minima.
Quand on voit l'histoire des jeux, il y a tout un tas d'épreuves.
Oui, justement.
À la demande de tous. Bon, qu'ont été supprimés, comme le lancer du javelot à deux mains, des trucs comme ça qui ont été supprimés. Mais il y a eu quand même tout un tas d'énonciations qu'ont accepté de jouer le jeu, bon, malgré en restant dans le rituel officiel des Jeux Olympiques. Comme on voyait même encore chez les Anglais, En 1912, ils tiraient à la corde. Ouais. Qui n'existe ouais. plus, hein, sport olympique. Mm-hmm. Bon, on a supprimé Interville tout maintenant. Ça. Ben oui, mais il fallait reconnaître, hein, évidemment, que si on modifie tous ces règlements-là, on va en retrouver d'autres.
Oui, mais justement.
Il y a des sports qui ont été créés aussi, donc oui, ça compense des sports qui ont disparu.
Le beach volley. Bon.
Ouais.
On veut bien le beach volley, mais et combien. Hein, dans les pays nordiques, pour les Jeux Olympiques, ça m'étonnerait qu'ils vont faire du beach volley.
Mais le beach volley dans la neige. En Norvège, moi j'ai visité la Norvège, dans le Grand Nord norvégien, ils le font. Hein. Ils mettent du sable sur. Oui, non, mais ils le font, il n'y a pas de problème.
Je crois qu'il y a des sports comme le baseball.
Maintenant, il faut reconnaître. Oui.
Alors le baseball, il est. Je sais
je
pas.
Je crois que ça a été supprimé le baseball au jeu, non?
Tous les moyens modernes, on peut.
Il a été en démonstration il y a 4 ans.
Il y a certains sports, comme au jeu de Barcelone auquel on a la chance d'assister. Mais il y avait des sports qui étaient acceptés, mais en plus. Mm-hmm. Bon, la pelote basque.
Oui. Ça ferait un très beau sport olympique.
Oui. C'est joli.
Justement, au jeu de Barcelone, on les avait assistés. Mm-hmm. Bon. Bah on y est allé deux fois là-bas.
Olympique.
Mais n'empêche.
Oui.
Oui, non, mais le ski nautique.
Le ski nautique. Il n'est pas olympique.
Il y a le triathlon qui est sport olympique depuis peu. Hein.
Oui.
Et je sais qu'il était prévu de ça. Je me demande si le baseball n'est pas officiellement supprimé. C'était un sport olympique. On avait justement. Ou le hockey sur gazon qui existe encore. Hein,
Le hockey sur gazon
oui,
existe.
Oui, qui existe encore. Mais le baseball, il était prévu de le supprimer. Il y avait aussi l'épreuve de softball. Donc là, on voit des sports où les niveaux sont quand même moins relevés. Parce que c'est pas des sports universellement pratiqués. Quoi.
Non, c'est surtout.
Donc c'est plus facile d'avoir des médailles dans ces sports-là que.
Tous les sports militaires qui sont venus après.
Pentathlon.
Biathlon et autres. Bon, ce sont des militaires de carrière. Mm-hmm. Donc, ils ont déjà la chance, eux, de participer. Bon, ils sont déjà un peu privilégiés. Mais vraiment, le biathlon, triathlon, ça n'existait pas. Mm-hmm. C'est revenu après les Jeux de Lillehammer.
Oui, oui.
Hein, pas avant.
Oui, oui, oui. Puis on voit même dans des sports d'hiver, bon, on voit le skeleton, par exemple. Hein,
oui.
C'est un sport. Il paraît que Bichente Zaradou veut
le pratiquer. Ouais, moi, je le ferai pas demain matin.
Veut représenter l'équipe de France aux Jeux de Vancouver en
skeleton.
Ouais, en 2010. Il serait partant pour en tout cas. Il y a très peu de pratiquants, donc comme les sélections sont ouvertes, si vous portez candidat, vous pouvez être sélectionné et les Jeux en skeleton, ce qui paraît incroyable quand même. Alors qu'il y a d'autres sport où c'est beaucoup plus difficile quand même d'avoir les sélections. Et alors, au niveau donc du porte-drapeau, Tony Estanguet, deux fois champion olympique, ça, c'était vraiment l'homme de la situation. C'était celui qui représente le mieux actuellement le sport français.
C'est quelqu'un de discret et à chaque fois qu'il participe, il gagne.
Ouais. Le rafflesel, ça aurait pas été mal, mais enfin...
J'aime bien aussi.
Oui. La guêpe.
Oh, la guêpe.
Hein? Alors, il y a également un peu le problème qui m'est intéressé par le passé, c'était le sport des handicapés. Oui, ils ont peur des handicapés qui, malheureusement, avec l'arrivée de tout un tas d'appareils...
Oui, il y en a un qui va être chez les valides.
...qui soit à la fin, soi-disant, accepté par une commission internationale de défendre des jeux handicapés, qui ont du mal à accepter de participer avec des engins qui logiquement, ne feraient pas partie des jeux handicapés. Qui nagent, ils ont un bras en moins, d'accord, mais que on leur donne des moyens plus qu'artificiels, ça pose encore un autre problème pour l'avenir.
Du coureur à la jambe,
oui,
D'après les tests qui ont été faits, parce qu'on pensait qu'avec le ressaut de la jambe, il aurait pu aller plus vite, et d'après les tests qui ont été faits, je pense que.
Soi-disant, leur commission
de vitesse
ont accepté actuellement, mais.
Cette jambe.
Moi, j'ai peur que ça pose des problèmes pour certains compétiteurs qui n'ont pas du tout le moyen physique.
Mais c'est peut-être une bonne façon aussi d'intégrer un handicapé dans le monde des valides.
Ça fait rigoler quand on voit nos nageuses que nous faisons, qui sont toujours en bikini, plus que sinon, qu'elles nagent maintenant. avec des maillots.
Là, c'est une question de glisse.
Non, ça fait peut-être un peu rêveur.
C'est une question de glisse. Hein, c'est simplement pour gagner des centièmes. C'est qu'on arrive à voir des différences entre nageurs. Bien sûr, elles sont infimes pour nous, mais pour eux, c'est énorme. Tout simplement par cet emploi de combinaison.
Juste un petit maillot pour un peu comme les filles.
C'est vrai que les images ont bien changé. Hein. Quand on voit les maillots de 72, Mark Spitz.
Ah, mais vous avez ça en tout. Je fais du vélo. Vous comparez un vélo d'il y a 20 ans par rapport à un vélo de maintenant, il y a une différence absolument énorme.
La Arena Catala ou autre, ou la présenter la semelle de leur ski, c'est pareil.
Très bien. Donc, ces Jeux Olympiques, donc avec Tony Estanguet, avec Laura Flessel, bon, ça risque d'être quand même des Jeux assez favorables pour le sport français, parce que le contexte, il va pas être facile quand même en Chine. Hein. Ils vont tomber sur une nation qui va être hyper blindée.
Ça fait 8 ans qu'ils se préparent à la compétition. Mm-hmm. Et quand on sait comment pratiquent les Chinois, c'est que ils ont du nombre. Donc, sur la masse de personnes, il est évident qu'ils vont trouver des gens qui seront compétents et puis ils vont les faire travailler à fond. Alors maintenant, est-ce que c'est de la gagne aux médailles? Oui, je pense oui.
Oui, parce que ça va être le reflet du monde, le regard du monde.
Tout à fait. Ah bah oui.
Sur les Jeux.
Tout à fait, puisque la première chose qu'on fait, quand vous voyez, moi je regarde beaucoup les Jeux Olympiques, c'est la liste des médailles par pays.
Bah ouais.
Donc être en haut avec le nombre de médailles d'or plus important que les autres, oui, c'est puis la vitrine.
Mm-hmm. Et ça coûte cher des Jeux. Est-ce que
c'est énorme.
C'est pas prendre trop de risques aussi, parce qu'après on endette un pays. Ah bon, la Chine, ils ont tout à construire, mais je pense à des villes européennes qui ont fait les Jeux, comme Athènes ou comme Londres, hein, qui va les faire en 2012. On sait qu'il y a des villes, des pays qui payent encore les dettes.
Je trouve qu'on rentre dans la démesure.
Ouais.
Moi, je me rappelle avoir visité quand j'avais visité Montréal.
Ouais, Montréal, super.
La fameuse tour de télévision qui devait être au-dessus du stade a été finie de construire, je crois que c'est 10 ans ou 11 ans après, puisqu'il n'avait plus d'argent dans les caisses pour finir cette fameuse tour au-dessus du stade. D'ailleurs, quand je suis passé, moi, c'était 6 ans après les Jeux, elle n'était toujours pas finie.
Donc, c'est bien qu'on n'ait pas eu les Jeux, finalement.
Oh non, je sais pas. Non, moi je suis un fan, donc évidemment je dirais pas non.
Bah,
maintenant, est-ce que au niveau engagement monétaire, c'est pas un cadeau de.
Non, parce que le problème après c'est de réutiliser ces installations, quoi. C'est de savoir la réutiliser.
Ah bah il faut qu'elles soient faites, oui, de façon à ce qu'elles soient réutilisées.
Ou alors on les démonte comme Coca-Cola en 96 avec Atlanta.
Oui, mais on va pas dans la civilisation du jeu table quand on fait des stades comme ça.
Je blague. Oui. Non, mais c'est vrai que oui. Les stades, ok, 80 000 spectateurs, mais après, il faut des manifestations qui remplissent ces stades.
Ah oui. Quand vous voyez déjà le Stade de France qui est toujours à la recherche remplissage, hein, parce que son taux de remplissage n'est pas suffisant à l'année.
Hein, des gymnases, des piscines, on parle d'une piscine olympique, mais après, dans les meetings, dans les réunions, il faut venir assister à ces piscines. Et le problème, c'est ça, quoi. On paye assez cher pour des installations qui peut-être ne sont pas assez rentabilisantes.
À mon avis, oui.
Ouais, c'est ça le problème.
Comme ce sont des installations de très haut niveau, on peut pas les laisser non plus faire aux gens à faire n'importe quoi à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est une masse de prix.
Alors c'est pour ça que nous, c'est peut-être plus facile de faire des Jeux d'hiver parce qu'on a déjà des infrastructures naturelles, j'allais dire.
Puis nos montagnes sont déjà là.
Bah, c'est ça, oui. On a des infrastructures naturelles. Hein. On a déjà les montagnes. Il suffit de les relier entre elles et puis voilà quoi.
Tout à fait. Puis comme on a des surfaces de ski assez importantes quand même.
Daniel, les Jeux d'hiver, c'est important aussi. Hein. Médiatiquement, le fait d'avoir séparé les deux, c'est mieux.
Ah bah non, de toute façon, les Jeux Olympiques, bon, il faut reconnaître que si on monte à l'histoire des Jeux antiques, que ce soit à Mirville, dans la banlieue de Mirville, ou même à Oufargy, où nous avons quand même, grâce à Madame Yvonne de Coubertin, bon, on avait réussi à aménager ce plateau d'éducation physique qu'elle avait créé, Yvonne et Madame Marie-Marcel, nous avons réussi à rester dans le secteur pour essayer de proposer, de continuer dans le pur esprit que nous avait légué Pierre Frédy, Coubertin et tous les membres de sa famille. Alors, grâce à cette époque qu'on a connue, nous, Félicien Vitan, qui était co-directeur de l'époque, à un moment, il y avait un problème qui s'est avéré, c'est qu'on a Coubertin, Pierre Coubertin, c'était surtout notre dirigeant qui avait voulu faire un tour de cycliste en vélo. qui s'est avéré catastrophique pour lui, parce qu'il a gagné son procès. Bon, et c'est grâce à Félix Évitant et tous ses amis, on a réussi à maintenir, justement, grâce aux efforts de certains. Alors voilà, M. Coubertin a disparu il y a quelques années. Toutes ces édits qu'il avait comptés, bon, sur un grand stade, par l'avenir, bon, qui est resté tombé à l'eau à une certaine époque, mais qu'on a réussi à conserver grâce aux archives, et ils sont très 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 nombreuses, des archives de la famille Pierre-Frédéric Barré, dont mes parents ont été mariés, justement, comme vous savez, par le baron de Rothschild en 1912.
C'est un cours d'histoire olympique. Hein.
Tout à fait.
Les Jeux d'hiver, d'été, dissociés, c'est mieux médiatiquement, parce qu'on sait que c'était la même année pendant jusqu'en 92, je crois. Après, ça s'est séparé à partir de 94. Ouais. Médiatiquement, c'est mieux. Parce que souvent, on avait le sentiment que les Jeux d'été étouffaient un peu les Jeux d'hiver.
Je pense que c'est mieux, oui, parce qu'on ne s'en aperçoit pas qu'ils existaient avant. Ouais, alors que maintenant, ils sont dans le créneau de deux ans suivants. Ils sont vraiment. On ne parle que de Jeux olympiques d'hiver à ce moment-là.
Ah oui. Alors, bon, une chose qui a beaucoup choqué, c'est qu'on parlait des sports qui pourraient donc rentrer sur les Jeux, qui devraient ou qui mériteraient de rentrer. Et puis, il y a les grands sports professionnels, hein, le foot, le basket, le tennis, le vélo. Est-ce que finalement, ces jeux, ces sports ont leur place dans les Jeux? Parce que, entre nous, est-ce qu'un joueur de foot, même de moins de 25 ans, préfère pas gagner la Coupe du Monde qu'une médaille olympique? C'est pas l'ultime en connaissance dans son sport.
C'est pas la même épreuve dans son esprit.
C'est pareil. Il préfère peut-être gagner plus Wimbledon ou bien Roland Garros qu'une médaille olympique.
Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est la représentation aussi de tous les sports. Alors pourquoi ne pas avoir ces sports-là?
Oui,
non, maintenant, ils ont pris le critère. Je crois en football, c'est moins de 23 ans. Ce sont les espoirs.
23 ans maintenant, c'est plus 25 ans.
C'est les espoirs de moins de 23 ans. N'importe comment, on s'aperçoit que même un perchiste ou quelqu'un qui va faire de la course à pied va être payé par une grande entreprise française. C'est grosso modo un professionnel.
Oui, mais pour un athlète, c'est gagner une médaille au jeu quand on fait de la natation ou de l'athlétisme, c'est l'ultime reconnaissance. Quoi. On peut pas gagner mieux.
Oui, mais
pour un footballeur, je suis pas convaincu qu'il préfère pas gagner.
Lorsque vous êtes en athlétisme, le grand rendez-vous, ce sont les Jeux Olympiques.
Ouais,
il y a tous les ans, il y a les championnats du monde, mais ça n'a pas la même notation.
Ouais.
Et puis bon, ils ont des courses aussi internes, intérieures au pays.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques représente à ce moment-là le summum. Alors c'est vrai que dans le monde du football, il existe la Coupe d'Europe, il existe la Coupe du Monde. Bon, pour le cyclisme, il y a le championnat du monde, il y a le Tour de France.
Le problème, c'est ça, c'est que c'est peut-être pas l'ultime consécration pour un sportif.
Je pense que pour un footballeur, l'ultime consécration, c'est franchement la Coupe du Monde. Pour un cyclisme, pour moi, l'ultime consécration, c'est de gagner le Tour de France, qui est l'épreuve la plus dure. Mais il est vrai que ce sont des sports qui sont représentés. Maintenant, en prenant le critère des moins de 23 ans, je crois que c'est une bonne chose. Il faudrait prendre un critère très jeune, oui, que ce soit en vélo, en tennis, dans tous ces sports qui sont très importants et très médiatisés, le critère d'une tranche d'âge spécifique est le mieux.
Parce que c'est pareil pour le basket, hein, quand on joue en NBA, on préfère peut-être gagner la NBA qu'un titre olympique, c'est malheureux à dire,
mais
c'est comme
ça. Depuis qu'il y a comme on appelle la Dream Team américaine, qui peut battre la Dream Team américaine? La Dream Team américaine 2.
Donc, c'est vrai, hein. Donc, c'est l'éternel problème de cette intrusion des gros sports professionnels, quoi.
Voilà. Maintenant, en prenant ce critère d'âge, je pense que d'abord, ça serait une poussée pour les jeunes et ça leur permet de se revoir.
Parce qu'on parlait aussi de l'apport de d'autres sports, le rugby, le golf aussi. Le rugby a été sport olympique pendant très longtemps.
Le rugby mériterait
de l'être. Pourquoi pas du rugby à 7, par exemple? Ce serait une façon de...
Oui, avec des milices et milices, c'est ça.
Mais
pourquoi pas le rugby à 7? Mais le rugby mériterait d'être un sport olympique. En plus, il y a un très bon esprit dans ce sport.
Il a été, Daniel, hein, sport olympique, le rugby?
Bah, c'était à cette époque-là, nous, on a évolué, puisqu'on avait supprimé les Jeux de 1924. Bon, il n'y avait pas du tout d'athlétisme pour les Jeux de... Après 28, il y a eu des problèmes de règlement qui ont supprimé les Jeux olympiques en 28. Et, par contre, on les a rétablis en 1932, sur le plan olympique. Hein. Bon. Alors, on est là, puis maintenant, on a suivi l'évolution de tous les règlements internationaux qu'on a modifiés petit à petit, mais à cette époque-là, il y avait très peu de femmes qui acceptaient de participer à certaines disciplines olympiques. Alors, on a réussi petit à petit, même au jeu de Chamonix, qu'on a remis au goût du jour, on redonnait la chance aux Jeux de 1924 qui n'existaient pas. On les a raccrochés de ce côté-là, mais ça a été tout un problème, même pour le sport féminin, hein, dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que même aujourd'hui, malgré que 150 ou 200 nations, bon, il n'y en a qu'une quinzaine qui font partie des mouvements internationaux pour s'occuper du sport de base, de l'athlétisme féminin.
Oui, justement,
très difficile.
L'athlétisme, zéro pointé il y a 4 ans.
Oui.
Est-ce qu'on va rentrer en cambredouille? Parce que c'est vrai aussi que c'est le reflet, hein. L'athlétisme, natation, c'est
les la natation,
sports, oui, comme on dit pendant le temps. Ah bah là, on va avoir des médailles. Là, il y a un potentiel qui est énorme.
L'athlétisme, bon, c'est vrai que c'est un sport difficile. Et puis, il y a le football qui domine tellement le monde des jeunes dans le sport. Lorsque vous avez des jeunes de 10, 12 ans, vous leur demandez ce qu'ils veulent faire comme sport. Ils vont faire du judo, ils vont faire du karaté, ils vont faire du foot, mais l'athlétisme, peu. Mm-hmm.
Et pourtant, donc, on a eu quand même une autre image, un autre reflet avec les championnats du monde sur le Stade de France. Ça a été une véritable embellie pour le sport.
Ils étaient phénoménaux, parce que d'ailleurs, on a gagné énormément de médailles.
Et puis,
on a eu des sportifs qui étaient au top à ce moment-là.
Ouais. Et même médiatiquement, hein, on parlait autant de Rakil que
de
Mehdi Balak.
Mais c'est vrai que là, on a fait des championnats de France qui étaient championnats du monde qui étaient phénoménaux. Oui.
Alors, on parlait de longévité. On peut quand même, justement, on parlait aussi des femmes. Beaucoup de femmes ont une grosse longévité olympique. Jeannie Longo, Flessel,
c'est une exception. Laura Flessel, pareil.
C'est quand même assez fabuleux.
Sa quatrième Olympiade, non?
Ouais, chapeau pour ces athlètes.
Tout à fait. Mais bon, ce sont des êtres d'exception. Mm-hmm. On ne trouve pas toujours des femmes à 49 ans qui vont gagner encore le championnat de France de cyclisme, ou comme Laura Flessel qui arrive, que médaille de bronze, qui arrive encore à avoir une médaille de bronze à son âge. Non, ce sont des êtres d'exception.
Et puis, il y avait aussi Marianne Othé, on se rappelle, la Jamaïcaine.
Oui.
Elle en a fait des jeux, elle.
4 ou 5
Olympiades. 5
Olympiades.
5
Olympiades, oui.
Ouais, c'est assez fabuleux aussi.
Je pense que ce sont des gens qui ont eu tout au bon moment, quoi. Le rythme cardiaque très lent, une longévité sportive.
Non, puis ça prouve
peu de blessures, parce que.
Il y a dû y avoir une diététique,
il y a une hygiène de vie qui est absolument phénoménale. Oui, on est obligé. Le cassoulet avant la course, je pense pas. Donc, non, une hygiène de vie obligatoire.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Très bien. Allez, on va marquer un petit break musical et puis ensuite on va voir notre ami Jean-Michel qui va quand même revenir sur la belle finale que l'on a vécue hier, hein, entre donc Toulouse et Clermont, 26-20 à l'arrivée, et Clermont qui n'est toujours pas champion de France. Allez, la pause musicale et ensuite on va parler de ballon. On y va. Oui, alors on a effectivement une émission très riche ce matin, très très chargée. On va vous dire, donc on va parler de golf, on va parler de foot, hein, on parle des Jeux Olympiques actuellement, et puis on va aussi parler de ballon ovale, hein, Jean-Michel, puisque hier on a vraiment vu une très 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 belle finale, mais une nouvelle fois, donc, eh bien, Montferrand n'a pas gagné à l'arrivée 26-20. Que manque-t-il à cette équipe de Clermont pour être un jour championne de France?
Eh bien, il lui manque pas mal de choses, puisqu'ils n'ont jamais été champions de France, et rappelle-toi ce que je t'avais dit.
Absolument.
Je t'avais dit que ils auraient beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ils ont en face d'eux chaque fois une équipe à culture, à forte culture rugby, qu'ils n'ont peut-être pas encore forcément eux. Et puis en plus, ils ont beaucoup d'étrangers dans leur équipe. Alors, est-ce que la mayonnaise peut prendre sur le sol auvergnat? On ne sait pas. Enfin, c'était une finale attendue, très attendue par les deux meilleures équipes du championnat régulier. Hein. D'un côté, Clermont-Auvergne qui n'a jamais soulevé le fameux bout de bois. De l'autre, le Stade Toulousain qui, lui, est un habitué du Brennus, mais qui, depuis quelques saisons, lui échappe. Depuis six saisons, d'ailleurs. Et dans la salle de presse de l'Open de golf, hier, les spécialistes du rugby étaient parfaitement partagés quant au résultat. Quelques paris ont même fusé. Que j'ai une fois de plus gagné, Philippe. Ça fait un bail que je dis, prédit que Clermont aurait beaucoup de difficultés à être champion de France, c'est ce qu'on disait. Hein. Cette soirée fut qu'une nouvelle fois à l'avantage du sorcier Henri Noves, Guy Noves, pardon. Quel bonhomme, vraiment quel bonhomme que ce sorcier-là, le plus beau palmarès du rugby français. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le Capitole était sur la capitale, mais on retient tiendra une superbe finale, malgré le final excédentaire de notre international Rougerie, qui aurait pu s'abstenir de son dernier geste. À retenir aussi le courage énorme, énorme de Baptiste Elissalde, qui a souffert le martyr. Ça a été vraiment le héros de la soirée. Finalement, quel beau match. Un match majuscule à tous les niveaux. Hein, à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau suspense, etc. etc. Voilà.
Oui, mais Jean-Michel, comment expliquer ça pour Clermont? C'est quand même bizarre, parce que l'année dernière, c'était face au Stade français, cette année, c'est face à, donc, au Stade toulousain. Qu'est-ce qui manque? Ils sont tétanisés par l'enjeu, parce qu'ils ont largement dominé donc, cette saison régulière.
Ils ont largement dominé la saison, et si ça avait été finalement, si le classement avait été comme au foot, ils seraient champions de France. Mais c'est vrai que sur un événement, ils ont peut-être pas la moelle pour l'emporter. Pourquoi ? Parce que cette culture de la gagne que pratique Guinovès hein, à tous les niveaux et surtout toute son équipe, ils ont une culture de la gagne que n'ont pas forcément les Clermontois. À telle enseigne que leur grand point fort, c'était l'alignement, la touche. Or, hier, ils ont été largement dominés par Toulouse. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Je suis pas sorcier. Même sur le plan technique, je crois que c'est très difficile à expliquer. Alors, est-ce qu'il y a, comme tu disais, est-ce qu'ils sont tétanisés au moment d'un grand événement? C'est possible. Mais toujours est-il que dans cette équipe, il faut une âme, et je crois qu'il manque cette âme de vainqueur.
Oui, on a vu cette équipe a très largement dominé en deuxième mi-temps. Hein.
Oui,
physiquement.
Toulouse.
Toulouse qui a donc.
C'était même, c'était anecdotique, quoi. On s'est dit à un moment donné, mais quand ils vont s'écrouler à 100%, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ils vont prendre 40 pions dans les naseaux. Quand on voit un Ledesma qui ne peut plus courir à partir de 15 minutes avant la fin du match, c'est quand même surprenant à ce niveau-là, quoi. Alors, est-ce que physiquement, la préparation n'était pas au top niveau, c'est fort possible, quoi. C'est fort possible. Mais toujours est-il que il est anormal de voir une équipe dominée sur le plan physique, sur le plan psychologique, parce que dès qu'ils ont pris l'essai du jeune arrière toulousain, ils ne savaient plus où ils habitaient, quoi. Ils ne savaient plus où ils habitaient. Même en mêlée, qui est un de leurs points forts, où ils ont été très forts toute la saison, ça tenait plus. Ils faisaient des fautes grossières. Des fautes d'un pilier, par exemple, qui ne sait pas changer sa position quand il se sent dominé, etc., etc. On peut énumérer, on peut faire une énumération et dire que Toulouse a largement dominé son sujet, quoi. Très largement.
Et puis, naturellement, les Toulousains avaient perdu cette finale de Coupe d'Europe il y a un mois, et je pense que... ça laisse des traces, et ils avaient cette envie, vraiment, de pas rater une deuxième finale cette saison, hein.
Exactement. Et encore une fois, Guy Noves, qui est un malin de chez malin, un type qui connaît à la perfection son sujet, a laissé planer des doutes quant à la participation d'Elissalde, oui. A laissé planer des doutes en disant que son équipe était fragilisée justement parce qu'elle avait perdu la finale de la Coupe d'Europe, etc., etc. Donc tout ça entretient un état d'esprit chez l'adversaire qui se voit peut-être un petit peu trop beau. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ferveur autour de cette équipe de Clermont, à tel point qu'il y avait des supporters qui étaient persuadés que Toulouse allait prendre la pâtée, quoi. Voilà. Alors, je crois qu'on n'a pas d'exemple en France où une équipe peut être survoltée lors d'une... vraiment survoltée lors d'un événement tel que Toulouse. Toulouse a cette possibilité, c'est assez extraordinaire. Du reste, je ne vois pas d'autre exemple en France de suralimenter ces possibilités.
Oui.
Ils savent, eux, affronter un tel événement.
Ouais, 17e titre de champion de France, 17e bouclier.
C'est, c'est sans précédent.
Oui, ça résume tout. Hein. Ça résume tout.
Ça résume tout, c'est la capitale du rugby européen. Quoi. Il n'y a pas meilleure équipe à l'heure actuelle si ils peuvent perdre une finale par-ci, une finale par-là, ça peut arriver parce que ça serait trop beau. Mais je crois que c'est une grande, grande, grande équipe.
Oui, en tout cas, la nuit a dû être belle, place du Capitole.
Sûrement, et je pense qu'à l'arrivée des Toulousains, je ne sais pas s'ils repartaient hier soir.
Non, cet après-midi, ils arrivent.
C'est cet après-midi.
Oui.
Ça va être de la folie sur la place du Capitole, de la folie.
Ouais. Allez, un petit mot sur l'équipe de France, battue 34-13 en Australie.
Alors là, excellente surprise.
Oui.
Excellente surprise, parce que cette équipe qui n'avait pas de cadre, hein, tout le monde le sait, puisque les cadres étaient retenus pour le championnat de France. Donc, excellente surprise, avec des révélations, comme le petit Palisson de Brive, enfin, comme certains jeunes qui avaient été intégrés dans l'équipe devant. Hein. Je crois qu'ils ont rendu une copie... pas parfaite, sinon ils auraient gagné, mais une très belle copie face à des Australiens qui certes sont un petit peu moins brillants que il y a quelques années, mais ça reste l'Australie, une grande équipe, une grande nation de rugby, et je trouve que les petits jeunes ont tiré leur épingle du jeu avec toutefois un bémol vis-à-vis de certains vieux comme Yashvili qui n'a pas été à son meilleur rendement. Je pense que sa saison qu'il a fait médiocre, sa médiocre saison qu'il a fait avec Biarritz, il la paye là parce qu'il a quand même profondément déçu hier.
Donc encourageant pour l'avenir, quoi.
Encourageant pour l'avenir, certainement, parce que quand il va y avoir ce mix entre les anciens et les nouveaux, je pense qu'on peut arriver à un amalgame assez sympa pour l'avenir.
Très bien, merci Jean-Michel. On se retrouve donc vers 10h40 pour le golf.
Alors oui, on va se retrouver pour le golf avec le président de la Fédération Française de Golf, Georges Barbaret, et avec une petite surprise, on va parler de quelqu'un qui a un humour colossal et qui est en train de présenter une collection de produits. Il vient de faire un bouquin, du reste. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure et vous allez voir, c'est un monsieur qui a un humour assez exacerbé.
Très bien, merci Jean-Michel. Le rendez-vous donc est pris. Voilà. On va remercier donc notre ami Daniel Deschâtres, hein, qui est venu nous parler donc de l'Olympisme très brièvement pour ensuite enchaîner sur la deuxième heure de cette émission. Il y a une petite particularité, 8 août 2008.
Ah oui, parce qu'en Chine, le chiffre 8 est porte-bonheur. C'est pour ça que les Jeux auront lieu le 8 août 2008 et en débutant, la cérémonie d'ouverture commencera à 8h08.
D'accord, ok, très bien. Ça va nous permettre donc d'envoyer le carillon de 10h et puis d'enchaîner sur la deuxième heure donc de cette dernière émission de la saison. Allez, on y va. Donc, il est 10h.
Il est 10h. Bon dimanche sur RVE.